Bonjour, bienvenue sur Bac FM. Je m'appelle Mélissa, je suis en seconde à Raoul Fellereau et je participe à l'atelier Sciences Po. Je suis accompagnée de Miloan en première qui participe également à l'atelier Sciences Po. Nous allons vous présenter notre invité, Jérôme Moreau, président de France Victimes en Nièvre, associé à Andavi, porte-parole et vice-président de la Fédération France Victimes et Victimes Support Europe. Donc cette émission portera sur les violences sexistes et sexuelles, plus précisément sur la description de l'association. Nous allons faire quelques questions sur le thème avec des données et nous conclurons avec une ouverture sur l'influence des réseaux sociaux. Donc avant de revenir sur le thème principal de notre émission, pouvez-vous expliquer vos différents statuts et fonctions ?
D'abord bonjour.
Bonjour.
Merci de cette invitation. Donc effectivement, je suis président de France Victimes 58 Andavi, qui est donc l'association nivernaise d'aide aux victimes d'infractions pénales à titre principal. Et puis j'ai été élu également à la Fédération nationale. Donc aujourd'hui, la présidente, Madame Lemaine Régnier, m'a confié le poste de vice-président et de porte-parole de la Fédération française. Et je suis également vice-président de la Fédération européenne, puisque c'est la France qui a la vice-présidence aujourd'hui dans cette institution européenne. Et donc, il m'incombe de représenter France Victimes et l'ensemble des associations nationales eh bien, à l'Europe. Et donc, c'est pour ça que j'assure cette vice-présidence.
Est-ce que vouloir être dans le domaine associatif était dans vos projets ?
Alors, j'ai toujours été, j'ai envie de dire, un militant un peu infatigable en direction des personnes vulnérables. Je me souviens avoir fait du droit des étrangers en situation irrégulière. Je me souviens avoir milité dans un certain nombre de structures et partis politiques. Et puis, j'ai toujours travaillé, en fin de compte, dans ma vie professionnelle pour les associations, notamment celle de la Nièvre. Donc, j'ai toujours eu cette fibre associative. Effectivement, j'ai peut travailler en fin de compte pour des entreprises privées à but lucratif. Ça n'a jamais été mon job en fin de compte, ni mes missions professionnelles. Donc je me suis toujours engagé. Et puis parallèlement, effectivement, j'ai été bénévole très rapidement dans l'association d'aide aux victimes lorsqu'elle a été fondée. C'est une jeune association hein, puisqu'elle a 21 ans. Et puis la présidente de l'époque en 2005-2006 m'a demandé de la rejoindre. Et puis peu à peu, ben voilà, j'ai gravi les fonctions, comme on dit. Et puis, aujourd'hui, je suis à des niveaux, très certainement, lorsque j'étais sur, à votre place, sur vos bancs, j'aurais jamais, bien évidemment, imaginé pouvoir atteindre. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est de l'ordre, sans doute, d'une certaine destinée, en tout cas, d'une certaine volonté, d'un certain engagement.
D'accord. Et pour terminer, comment vous pourriez vous décrire en trois mots ?
Sans doute pugnace, d'abord. Parce que je pense qu'il faut de la pugnacité pour être à ses fonctions bénévoles et ne jamais rien lâcher. Le droit m'a appris la rigueur, donc je dirais rigoureux. Et c'est aussi quelque chose qui fait partie de mon caractère, c'est que je connais mes dossiers et je suis capable de les défendre, mais parce que j'ai cette vision de la rigueur. Et peut-être aussi difficilement compréhensible dans certaines situations. Alors, je ne sais pas si c'est une stratégie de ma part ou si c'est aussi que je vais assez vite pour mes équipes. Mais en tout cas, c'est sans doute aussi un des traits de caractère.
Eh ben, je vous remercie donc de nous avoir partagé votre parcours. Et donc maintenant, nous allons nous intéresser à nouveau sur l'association France Victimes 58. Pourriez-vous nous citer les différents membres qui constituent l'association ?
Alors, nous n'avons que des membres aujourd'hui qui sont des personnes physiques, qui sont des bénévoles. Et puis, nous avons une équipe salariée. Le conseil d'administration, bien évidemment, est composé de bénévoles qui ont différents profils. Ça peut être des assistants sociaux, ça peut être des juristes, ça peut être des anciens enseignants, enfin voilà, travailleurs sociaux. On a tous les profils, en tout cas dans ce conseil d'administration, qui viennent renforcer, en fin de compte, et aider, appuyer une équipe salariée composée de juristes, de psychologues et de travailleurs sociaux. Et ça, c'est le minimum que la loi impose dans une association d'aide aux victimes. Aujourd'hui, nous sommes la seule association inscrite dans le Code de procédure pénale, puisque le procureur, au titre de l'article 41 du Code de procédure pénale, a la faculté de mobiliser une association d'aide aux victimes. Donc, il est fait obligation que dans chaque ressort de tribunaux judiciaires, il y ait une association d'aide aux victimes, composée à minima de juristes, travailleurs sociaux et psychologues. Nous avons d'autres compétences dans l'association salariée, des accueillants et puis sophrologues.
D'accord, je vois que c'est une association très riche, donc. Tout à l'heure, vous avez cité que l'association avait 21 ans. Est-ce que vous pourriez faire un petit historique peut-être de l'association et donc nous montrer une certaine évolution aussi de l'association, c'est-à-dire comment de l'échelle nationale elle a pu s'étendre au niveau européen?
Alors, si vous voulez, le mouvement des associations d'aide aux victimes en France a 40 ans. En gros, on va dire ça comme ça. Les premières associations se sont construites en Bretagne, une à Paris et dans le Sud. Et puis, lorsque François Mitterrand a été élu président de la République, Robert Badinter a été nommé garde des Sceaux. Robert Badinter, qui était l'infatigable militant contre la peine de mort. Ce qu'on connaît moins de Robert Badinter, c'est sa volonté pour que les victimes puissent être reconnues. Et il s'est embarqué durant 5 ans dans une vraie politique de promotion de l'aide aux victimes. Et à ce moment-là, il a demandé à ce qu'il y ait une fédération nationale qui regroupe ces associations qui étaient complètement éparses sur le territoire. Et donc, on a fondé en 1986 l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation, qui est aujourd'hui la Fédération France Victimes. Donc, j'ai envie de dire un peu comme cela, et excusez-moi de ce mot trivial, mais en tout cas c'est comme ça que ça s'est construit. Les départements se sont étoffés et ont eu des associations d'aide aux victimes. En 2000, Elisabeth Guigou est garde des Sceaux, et le 15 juin 2000 est publiée sa grande loi sur l'aide aux victimes et la présomption d'innocence. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive à ce fameux article 41 du Code de procédure pénale qui pose la faculté pour le procureur de la République de recourir à une association d'aide aux victimes de son ressort. Trois départements en France n'avaient pas d'association d'aide aux victimes, dans la Nièvre. D'accord. Et donc, le président du tribunal, le bâtonnier, le procureur de la République ont fondé l'association d'aide aux victimes. Alors, on avait un problème d'impartialité, puisque les juges ne peuvent pas être à la fois dans les associations d'aide aux victimes et puis juger. Donc, il a fallu trouver des personnes physiques et des personnes morales. Et on s'est appuyé sur les associations du département qui était l'UDAF, qui était la Sauvegarde, etc. Je crois qu'il y avait l'association des veuves et des veufs. Enfin, voilà. Bon. Et puis, peu à peu, l'association s'est étoffée et l'association nivernaise a pris son envol et son premier nom a été ANDAVI, Association nivernaise d'aide aux victimes d'infractions. Et puis, en 2016, au sein de la fédération, on a une réforme sur le nom. L'INAVEM devient France Victime et localement, les associations deviennent France Victime adossées au numéro de département. Donc, on s'appelle France Victime 58. Et puis, personnellement, on m'a demandé tout simplement, à un moment donné, face à un vide dans le conseil d'administration, si je ne voulais pas rentrer dans le conseil, et puis si je ne voulais pas faire bénéficier la fédération de mes connaissances, de mon réseau, et puis un peu de mon expérience. Donc j'ai accepté, donc je me suis retrouvé membre du conseil d'administration de l'association, puis trésorier adjoint, trésorier, et puis aujourd'hui vice-président. Et puis, je vous l'ai dit, la Fédération France Victimes est membre de la Fédération Européenne qui est Victimes Support Europe. Victimes Support Europe comporte 87 membres aujourd'hui dans les 27 pays de l'Union et elle a pour objet d'être la voix des victimes et de promouvoir des politiques publiques à côté de la Commission Européenne. Et donc, on a demandé à la France d'assurer ce poste de vice-président. Personne ne parlait anglais à part moi dans la fédération, donc c'est un peu un hasard sur lequel je me suis retrouvé là. Et puis, il fallait un peu de temps et puis un peu de conviction européenne. Donc, la présidente m'a désigné. J'ai été élu par les membres de la fédération européenne après une audition. Et puis voilà, maintenant, j'ai un mandat limité, hein, je ne pourrais faire que 6 années, c'est dans les statuts de l'Union de toute façon, que les membres des associations financées par l'Union européenne sont limités à 6 années, donc dans 4 ans, je ne serai plus, quoi qu'il arrive, vice-président de la Fédération Européenne. Puis c'est très bien comme ça, ça tournera.
En tout cas, ça vous fera une expérience assez enrichissante, ouais. Je l'espère. Maintenant, j'aimerais venir sur le point des procédures d'accompagnement des victimes, ouais. Mises en place par l'association. Est-ce que vous agissez donc de façon différente lorsqu'il s'agit d'une violence psychologique qui a été faite sur une personne ou plutôt violence physique?
Alors, si vous voulez, on a un caractère universel et une égalité de traitement entre les victimes. Quelles que soient les victimes, elles doivent être également accompagnées, équitablement supportées. Et donc, évidemment, que la première chose, c'est qu'on va analyser la situation avec les victimes et on va repérer leurs besoins et qu'effectivement, des victimes très gravement traumatisées, et je reprends simplement un mot de procédure pénale qui nous est opposable, les associations, on va les accompagner différemment qu'une personne qui a eu un bris de rétroviseur, par exemple, suite à une course-poursuite ou une dégradation volontaire. Et il est évident que l'âge est important, qu'on n'accompagne pas de la même manière un enfant, un jeune adulte, une personne âgée ou quelqu'un en pleine force de l'âge. En tout état de cause, ce n'est pas forcément ce qui va nous guider et on va regarder encore une fois ce dont a besoin les victimes. Et effectivement, alors ce qui est important de préciser également, c'est que tout est gratuit chez nous, hein. Tout est secret, tout est confidentiel. Mais que dans un certain nombre de situations, on a bien conscience qu'il va falloir des accompagnements renforcés par rapport à d'autres victimes, au regard du traumatisme, au regard de l'âge. On n'accompagne pas de la même manière un enfant qui a été violé qu'une femme victime de violences conjugales, qu'une personne qui a été cambriolée. Mais il ne faut jamais sous-estimer l'impact traumatique d'une infraction sur une personne, sur une victime. Et il ne faut jamais aussi considérer qu'on a des traumatismes plus ou moins graves. C'est chaque victime qui connaît ce dont elle a besoin et quelle est l'étendue de son traumatisme. En tout état de cause, on accompagnera autant que de besoin, psychologiquement, juridiquement, socialement, avec les sophrologues s'il y a besoin, chaque victime d'infraction.
Nous allons nous intéresser plus particulièrement aux violences. Donc selon vous, qu'est-ce que l'on entend par violences sexistes et sexuelles ?
Alors, les violences sexistes et sexuelles sont aujourd'hui le fait que parce qu'on est une femme, eh bien on va être discriminé et on va pouvoir aller jusqu'à une violence ultime et absolument effroyable qu'est le viol. Je pense que c'est le pire crime qui puisse exister, moi, hormis l'assassinat, le terrorisme et tout ça, mais en tout cas lorsque la victime reste vivante. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est une arme de guerre aujourd'hui, les dictateurs l'ont bien compris. Et puis, sur les violences à caractère sexuel, c'est toute violence à caractère sexuel, enfin c'est tout acte sexuel non consenti. Non consenti parce que on a une exception de minorité d'abord. Les violences à caractère sexuel, que vous soyez un jeune garçon de 5 ans, que vous soyez une jeune fille de 5 ans, vous n'avez pas à être violé, vous n'avez pas à être agressé sexuellement. Et c'est une violence sexuelle, quel que soit l'âge. Et puis, les violences à caractère sexuel, c'est tout acte sexuel non consenti, toute discrimination à caractère sexuel qui va faire que la personne se sent violentée. Je rappelle quand même que dans l'échelle de la violence, on a plusieurs violences. Effectivement, ce qu'on voit, c'est les violences physiques, c'est les plus faciles à appréhender, parce que généralement, on a des preuves assez facilement repérable, notamment dans un délai très proche après l'infraction. Les coups et blessures, vous avez le corps qui est bleui, vous avez... les expertises médico-légales sont assez réalisables facilement. En tout cas, sur le plan matériel. Après, pour les victimes, c'est autre chose. Mais voilà. Vous avez les violences psychologiques qui peuvent aller jusqu'à la mort. Et quand on parle de harcèlement, par exemple, sur les réseaux sociaux de jeunes personnes et les suicides, comme on a vu là encore cette semaine, ce sont des violences psychologiques qui peuvent avoir des conséquences très graves. Et puis vous avez d'autres auxquelles on pense moins, mais qui sont tout aussi difficiles à vivre pour les victimes. Vous avez des violences économiques. On sait par exemple que dans certains couples, les conjoints n'autorisent pas leur femme à avoir de compte bancaire ou spolient leur argent. Vous avez les violences administratives, quand vous confisquez les passeports, les cartes d'identité, les numéros de sécurité sociale, enfin toutes les attestations, ce sont des violences qui existent et qui sont réelles. Vous avez les violences sur les enfants. Quand l'enfant devient otage de son conjoint, non représenté, lorsqu'ils sont enlevés, lorsqu'ils sont... Voilà. Aujourd'hui, on a 327 enfants qui ont disparu en France, qui sont à l'étranger et sur lesquels on n'a plus de nouvelles. Donc on voit bien qu'on a des violences en général qui dépassent largement le cadre physique et psychologique, qui sont beaucoup plus difficiles à prouver, mais qui sont tout aussi inadmissibles. Et derrière tout cela, il ne faut pas oublier qu'il y a les phénomènes d'emprise. Et l'emprise, ce n'est plus que les mouvements sectaires, on le sait. On a des violences qui s'expriment à caractère sexuel, notamment sur l'enfance, où les enfants ne dévoilent pas les faits parce qu'ils sont sous emprise de leur infracteur.
Et donc, quelles sont les caractéristiques d'un agresseur à l'inverse d'une victime ?
Oh ! Alors moi, je ne suis pas criminologue. Je fais de la victimologie. Donc, ce que je peux dire dans l'expérience que j'ai, c'est que notamment sur les pédophiles, on voit qu'ils ont tous subi des traumatismes à caractère sexuel durant leur enfance et qui n'a jamais été accompagné ni cassé. Mmh. Il y a quand même des phénomènes de reproduction qui sont incompréhensibles. Alors, ça n'excuse rien, bien évidemment. On a toujours la possibilité de se départir du crime, comme je dis toujours, et il faut faire cet effort. Mais en tout cas, c'est une des caractéristiques qui m'a toujours frappé. Après, voilà, vous avez des pervers, vous avez des schizophrènes, vous avez des gens qui sont violents par nature et qui n'arrêteront pas. Et puis, il y a des gens chez qui on va pouvoir travailler efficacement et les sortir de la sphère de la violence. Voilà, mais je ne suis pas un spécialiste, donc ça m'est un peu compliqué de vous répondre. Voilà, mais... voilà ce que je peux vous dire en ayant parcouru les prétoires depuis 20 ans.
D'accord. Et donc, si du côté de la victime, vous êtes plus calé, si je puis dire, comment vous pourriez comprendre ou essayer de savoir pourquoi elle se laisse faire, cette victime ?
Alors, d'abord, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que les victimes se laissent faire. Les victimes sont généralement, dans un certain nombre de situations où il y a des infractions continues ou répétées, comme vous voulez, elles sont victimes d'emprise. Et toute la stratégie des auteurs, c'est justement de les faire passer du statut de victime au statut où c'est elles qui sont coupables. Et notamment dans les violences conjugales, on connaît bien le mécanisme. Vous avez une chape de plomb qui va s'abattre sur la victime, et peu à peu cette emprise va se graduer, les violences vont se graduer, avec un discours qui est extrêmement perverse, qui consiste à dire peu à peu, oui mais... c'est pas moi le coupable, mais c'est toi parce que la soupe était pas assez chaude, parce que le repas était en retard, parce que voilà, moi je travaille toute la journée, toi tu ne fais rien, et voilà. Et donc, on va changer la culpabilité, et le problème de l'emprise, c'est que c'est un véritable lavage de cerveau, qui va annihiler, en fin de compte, toute possibilité de sortir de cette spirale infernale, parce que la personne n'a plus une personnalité qui lui permet de réagir. Et c'est toute la difficulté des victimes d'emprise. Et les victimes d'emprise sur les sectes, c'est la même chose. Si on regarde bien l'histoire des sectes, comment est-ce qu'on peut expliquer autrement par le fait que les victimes ont subi un véritable lavage de cerveau, ne sont plus elles-mêmes et n'ont plus leur personnalité initiale, comment est-ce qu'on peut expliquer autrement que par cette idée qu'elles se suicident en chantant ? Dans le temple solaire, ça a été ça. Et c'est bien parce que les personnes sont victimes d'emprise et qu'on leur commande au bout d'un moment un acte et qu'elles le font, mais c'est uniquement sous le prisme de l'emprise qu'on peut comprendre cette chose-là. Et sur le harcèlement, c'est la même chose. C'est exactement le même processus, alors à des degrés divers, certes, mais en tout cas, on voit des victimes qui ne peuvent plus réagir parce qu'elles sont enfermées dans l'infraction, dans la culpabilité, dans la honte, alors qu'il faut les aider immédiatement, qu'il faut leur porter assistance et secours, qu'il faut les sortir de cette spirale.
Et donc, dans quel milieu ces violences subsistent-elles le plus fréquemment ?
Alors, la violence ne concerne pas un milieu en particulier. Sinon, ça se saurait. Mmh. C'est très simple. Il y a des facteurs aggravants, l'alcool, la drogue, le stress, voilà. Mais il n'y a pas un milieu particulier. Si vous allez courir les tribunaux, vous verrez que, certes, à des degrés un peu différents, mais en tout cas que tous les milieux sont concernés. Les violences sexuelles et sexistes, tous les milieux sont concernés. Quand vous voyez le profil des personnes qui passent aux assises, ces trois dernières années, évidemment, on a des profils un peu, voilà, où on a des gens qui sont dans une misère sexuelle, sans doute importante, qui n'ont pas été accompagnés à un certain moment de leur vie. Mais il n'y a pas que ça, ça serait trop simple. On a des gens qui connaissent parfaitement les mécanismes juridiques, on a des gens qui ont de l'argent, qui frappent, qui martyrisent. Donc, il n'y a pas un milieu qui échappe à cela. Et c'est ce qu'il faut retenir, c'est que la violence est malheureusement et désespérément universelle aujourd'hui.
D'accord.
Donc, merci beaucoup Jérôme Moreau pour avoir répondu à ces quelques questions. Et on vous retrouve donc pour la suite de l'émission après cette courte pause musicale.
T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la vie. bois. Prends garde sous mon sang là.
Nous sommes de retour pour une émission sur les violences sexistes et sexuelles en compagnie de Milohan et Mélissa et notre invité Jérôme Moreau, président de France Victimes dans la Nièvre, associé à Andavie, porte-parole et vice-président de la Fédération France Victimes et Victimes Support Europe.
J'aimerais donc revenir sur donc les milieux. Vous nous avez dit qu'il n'y a pas un seul type de milieu, c'est une violence qui est sexiste et sexuelle universelle. Mais j'aimerais vous interroger plutôt dans le cadre du travail. Comment sont perçues en fait par les victimes les violences sexuelles et sexistes, mais comment est-ce qu'aussi elles sont plus ou moins visibles? C'est-à-dire quel est l'acheminement et l'évolution des violences dans le cadre du travail?
Alors, c'est un peu compliqué d'avoir du recul parce qu'aujourd'hui, depuis le mouvement MeToo, on va dire que quand même, on a une libération de la parole et que les victimes ont parlé. Et on a vu des personnalités célèbres, des acteurs, des actrices, dénoncer soit des faits dont ils ont été témoins. Je trouve qu'il y a eu des acteurs courageux et soit des actrices qui ont dénoncé ce qu'elles avaient subi. Et on a bien compris dans quel sens ça allait. Hein. C'est toujours le rapport du puissant contre la personne qui a besoin de travailler ou qui avait besoin à un moment donné d'un rôle. Et ça rejaillit en fin de compte sur les milieux plus anonymes. Et c'était bien ça. Parce que ça voulait dire qu'à un moment donné, sur les lieux de travail, il devait y avoir une absolue sécurité des salariés, des personnes qui travaillaient. Et on est plutôt favorable à ça. C'est quand même pour ça qu'on va au travail, c'est quand même pour s'épanouir. Alors, ce qu'on sait, c'est que le harcèlement, plus que le viol, parce que le viol, il y en a, mais c'est sans doute moins important que les situations de harcèlement et de harcèlement à caractère sexuel, sont encore trop nombreuses et qu'il faut les dépasser et qu'il faut les prévenir. Alors aujourd'hui, la loi a quand même été extrêmement favorable, avec un certain nombre d'obligations de plus avoir d'affiches dans les vestiaires, notamment où on voyait des femmes sur des calendriers qu'on connaissait, qui sortaient tous les ans. Voilà, enfin, on a quand même eu toute une législation qui a dit, là encore, les vestiaires doivent être respectueux de la dignité des femmes. Donc, et même dans les vestiaires des hommes, et ce qui était quand même la moindre des choses qu'on pouvait acter sur un lieu de travail. Deuxièmement, on a quand même facilité la preuve. Et aujourd'hui, on peut noter tous les faits qui vont être susceptibles d'être incriminés, et c'est recevable. Et puis, encore une fois, la parole est quand même aujourd'hui l'une des conditions pour que ça s'arrête. Et c'est plutôt bien. C'est la première chose. La deuxième, c'est que sur le harcèlement proprement dit, il faut que les victimes parlent. Aujourd'hui, elles ont des lieux, la médecine du travail, l'inspection du travail, et il faut aussi que ces institutions-là prennent tout leur essor là-dessus et que les auteurs soient poursuivis. C'est vraiment important aussi. Et condamnés.
Donc je vous remercie d'avoir répondu à cette question. Et maintenant, j'aimerais avoir quelques données chiffrées. C'est-à-dire que comment on va mesurer un taux de victimes?
Alors, ce que l'on sait, c'est d'abord le nombre de plaintes en France, à peu près 4 millions. Ça, c'est une donnée qui est objective. Il y a à peu près 4 millions de plaintes présentées en France.
Par 12
000
an.
Par an, ouais.
Oui. Okay.
12 000 pour la Nièvre. Nous, on accompagne 1200 personnes. Là, cette... j'ai pris mes chiffres de la Nièvre. On a accompagné 761 victimes depuis le début de l'année, 2300 entretiens et sur les violences conjugales, 264 personnes, 264 femmes depuis le début de l'année. Donc vous voyez, ce sont des chiffres qui sont impressionnants. Après, il y a tout le chiffre noir qu'on essaie d'évaluer. Voilà, donc sur l'enfance, la commission des infractions sexuelles sur les victimes d'enfants, la CIVIS vient de publier le chiffre qu'il y aura à peu près 165 000 enfants victimes chaque année d'agressions sexuelles. Donc voilà, c'est tout le travail de fourmi des criminologues, des victimologues et puis des autorités publiques d'aller chercher, traquer ce chiffre noir et puis de faire en sorte qu'il diminue parce que c'est quand même le plus important et que les auteurs soient condamnés. Mais le chiffre le plus objectif, c'est le nombre de plaintes aujourd'hui qui est essentiel et qui donne au moins une réalité de la délinquance et de la criminalité en France.
Donc, si j'ai bien compris, pour mesurer un taux de victime, on se base sur le niveau de plaintes à peu près par an, sur le nombre de plaintes par an.
Alors,
il y a d'autres
oui.
facteurs.
Alors,
pour qualifier.
On sait qu'il y a des victimes qui ne déposeront jamais plainte. On sait, par exemple, qu'il y a une victime sur 10 de viol qui dépose plainte. Donc, voilà, le rapport, il est de 1 à 10. Et ça nous permet d'extrapoler. On sait également, dans le cadre des enquêtes, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'enquête anonyme, on sait ce que disent les femmes. Hein. La dernière enquête, qui était l'enquête Virage, je crois, de 2016, disait qu'il y avait une femme sur 10 hein, qui était victime de son conjoint dans les 12 derniers mois. Donc voilà, ça donne quand même quelques repères. Mais effectivement, un des chiffres sur lesquels on peut travailler, déjà, c'est le nombre de plaintes, parce qu'on sait que c'est le nombre de victimes qui est pratiquement à coup sûr.
D'accord, parfait. Donc aujourd'hui, on peut rencontrer différents profils de victimes, comme on a pu en parler un peu plus tôt, donc tant sur le plan psychologique que sur le plan physique. Et y a-t-il donc par conséquent une comptabilisation différente au niveau du taux de victimes?
Non, on comptabilise les infractions aux personnes, les infractions aux biens.
Okay.
Voilà, en gros, c'est la grande dichotomie. Pour le reste, effectivement, on va mesurer, mais ça, c'est des chiffres internes et c'est de la délinquance que le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice évaluent au regard du nombre de plaintes. Mais alors, évidemment, on a le taux de victimes de violences conjugales et les enfants victimes, parce que c'est aujourd'hui le curseur sur lequel les politiques publiques mettent l'accent. Mais pour le reste, on distingue généralement les atteintes aux personnes, les atteintes aux biens.
D'accord. Parmi les caractéristiques donc du mesure du taux de victime, est-ce qu'il y a des panels d'âge, par exemple, qui vont varier à l'échelle de la France qu'à l'échelle de la Nièvre?
Alors, on sait que la Nièvre est frappée par les agressions sexuelles sur mineurs. Ça, c'est clair et net. Sur le reste, j'ai pas de données plus chiffrées que ça. Mais en tout cas, effectivement, la protection de l'enfance a un travail considérable dans le département et avec des taux, moi, je trouve, qui sont quand même extrêmement importants. Pour le reste, on est dans les moyennes nationales. Alors, on est un petit département aussi, donc 200 000 habitants. Donc, effectivement, les choses sont un peu différentes. Les caractéristiques géographiques et sociologiques, évidemment, sont différentes que la Seine-et-Marne, qui est le département le plus peuplé et le plus important de France. Donc, voilà, ou que les territoires d'outre-mer. Donc, sinon, on n'est quand même pas dans un département qui a un taux de délinquance extrêmement inquiétant, hormis sur, je trouve, les enfants victimes d'agressions sexuelles et sur, quand même, dans un certain nombre de situations, la considération que des hommes apportent aux femmes.
Donc aujourd'hui, dans notre société contemporaine, très modernisée, selon vous, qu'est-ce qui pourrait influencer le nombre de victimes, notamment donc chez les jeunes ?
Alors, on a quand même, avec l'apparition des réseaux sociaux, qui a fait suite, en fin de compte, à l'apparition de la télé-réalité quand même, je trouve, vu une nouvelle délinquance émerger. La délinquance numérique, alors qu'on appelle cybermalveillance, cybercriminalité, cyberdélinquance, comme vous voulez, on ne va pas faire de la sémantique, on va s'intéresser aux victimes. Et effectivement, là, on a véritablement des victimes d'un autre temps, j'ai envie de dire, qu'on n'avait pas avant et qui apparaissent. Alors, je ne sais pas si c'est de la modernité ou si c'est du recul, parce que, voilà, on aurait pu penser quand même que tous ces réseaux allaient résoudre un certain nombre de difficultés et, en fin de compte, ils en amènent. Alors, c'est pas réquisitoire contre les réseaux sociaux et contre le modernisme, mais bon, il faut bien voir qu'on a besoin de régulation d'abord.
Oui.
Et la loi sur le numérique va nous y aider, hein, avec la suspension possible des comptes, l'ARCOM, qui est l'autorité de régulation des outils numériques et de communication, va nous y aider. Et puis, de l'autre côté, on voit bien que malheureusement, on a des personnes qui sont harcelées par les réseaux sociaux, harcelées à l'école et qui suicident, on en compte un peu plus de 20 par an, donc c'est quand même un chiffre important et sur lequel il faut pouvoir les aider. Et moi, je pense que l'un des enjeux, c'est que les réseaux sociaux eux-mêmes s'autorégulent et que les réseaux sociaux soient responsables et puissent rappeler quand même que on ne doit pas subir de violence par leur intermédiaire et qu'il faut trouver les numéros et qu'il faut trouver les bons interlocuteurs, et c'est leur rôle de faire la promotion de tout cela. Mais bon, c'est mon idée.
D'accord, bon, je pense que ça devrait quand même être l'opinion générale.
J'espère.
C'est mieux. Donc maintenant, nous avons donc pu voir à travers cette émission que vous aviez un parcours très riche, que l'association avait eu une évolution assez incroyable en 20 ans, et on a pu voir que les violences sexuelles étaient à caractère universel aujourd'hui, et ce qui a donc peut-être changé certaines opinions par la suite de cette interview. Donc pour clôturer cette émission, j'aimerais vous demander quelques informations en plus. Quelles sont vos différentes interventions et comment les mettez-vous en place ? Peut-être que vous faites des meetings dans les lycées.
Alors,
des genres de...
moi je suis porte-parole au Journée nationale, donc je fais ce qu'on me dit de faire.
Ah.
Voilà, c'est plus simple. Tout d'abord, j'interviens dans des colloques à la demande des associations, sur un certain nombre de thèmes, quand mes collègues me le demandent. J'interviens régulièrement également dans la presse, hein, que ce soit à la télévision, dans la presse écrite, à la radio, comme je le fais aujourd'hui. Des fois, c'est des émissions locales, des fois, c'est des émissions plus nationales, des fois, c'est des médias européens. Donc, voilà, je fais tout cela. Et puis, de l'autre côté, évidemment, ce que je voudrais dire, c'est que ce que je fais n'est pas possible seul. Et que c'est aussi parce qu'il y a une équipe derrière moi, aussi parce qu'il y a une agence de presse qui m'aide dans la préparation des interviews. Bon, c'est plutôt vrai au national, mais c'est quand même une réalité. Et puis parce que j'ai des gens qui me préparent des alertes sur les dernières annonces gouvernementales, sur les lois, qui me font des fiches, voilà, que je lis et que j'ingurgite. Donc voilà, c'est aussi cela. Mais... l'idée, c'est de promouvoir une certaine vision de l'aide aux victimes aujourd'hui. Et mon rôle, c'est ça. Et je considère que toutes les victimes doivent être accompagnées, quelle que soit l'infraction. Et encore une fois, on peut être victime de discrimination, d'injures, d'assassinat. Toutes les victimes ont le droit, à un moment donné, d'être accompagnées. Alors évidemment, l'intensité de l'aide ne sera pas la même, et on en est parfaitement conscient. Mais chaque victime est égale. Et il ne faut pas aboutir à une hiérarchisation en disant il y a des victimes plus importantes que d'autres, il y a des traumatismes plus importants que d'autres. C'est pas vrai. Quand vous perdez votre enfant dans un homicide involontaire, d'accident de voiture, quand vous le perdez parce qu'il est égorgé par un type ou parce que il se suicide suite à du harcèlement, le traumatisme pour les parents est absolument effroyable et doit être accompagné. Et on ne va pas hiérarchiser des infractions, on ne va pas hiérarchiser des traumatismes. Le code pénal le fait, mais ça, c'est le code pénal. nous, du côté associatif, nous avons ce devoir de solidarité envers toutes les victimes. Et c'est une mission absolument essentielle et sur laquelle je reste le gardien du temple.
D'accord, parfait.
Avant de terminer l'émission, connaîtriez-vous d'autres associations qui sont sensibles à ce sujet, sans avoir les mêmes démarches ni objectifs que la vôtre ? Et pouvez-vous expliquer leur fonctionnement ?
Alors, il y en a beaucoup, vous les voyez fleurir sur les médias, voilà. Nous, on travaille beaucoup avec la FED au niveau local, je vais rester un peu au niveau local. On travaille beaucoup avec Alma 58 également, et je voudrais vraiment leur faire un clin d'œil, parce que c'est une association qui s'appelle Allo Maltraitance, personnes âgées, personnes handicapées, et qui a un vrai rôle en France en tout cas. Et dans ce département, donc il ne faut pas hésiter à les contacter.
D'accord. Et maintenant, pour clôturer l'émission, qui fut donc très enrichissante pour Mélissa et moi, mais j'espère aussi pour vous, nous voulions vous demander si vous avez des contacts de l'association, par exemple comme un siège dans la Nièvre où nous pourrions...
Alors, nous sommes dans la Nièvre, et évidemment, 26 rue Charleroi, notre téléphone est le 03 86 36 67 83, on a un site internet, on fait des permanences délocalisées dans tout le département, donc allez sur le site, vous trouverez tout cela, on peut nous joindre par mail, on peut nous joindre par téléphone, on fait des permanences évidemment au commissariat, à la gendarmerie, et puis à l'unité médico-judiciaire aujourd'hui, puisqu'on en porte une partie, et à l'UAPED, l'unité d'accueil pour enfants en danger, qui vient d'être créée dans le département, et on travaille avec toutes les forces de l'ordre, les magistrats, les médecins, évidemment la préfecture. Je voudrais dire en conclusion, parce que si vous me permettez un mot, que aujourd'hui on est dans un moment où trois policiers, une infirmière ont été tués, mais de l'autre côté, où je trouve qu'il y a une attaque sans précédent des policiers et de la justice. Je voudrais dire quand même que dans ce département, mais c'est valable dans tous les départements de France, mais je voudrais dire que dans ce département, les choses se passent très bien, qu'il y a des rouages qui sont extrêmement importants et essentiels pour l'accompagnement des victimes entre les gendarmes, la police, la justice et l'association. Et que c'est la condition sine qua non pour que les choses se passent bien et qu'on ne gagne rien à critiquer de manière un peu abusive, voire même populiste, ces institutions qui œuvrent pourtant tous les jours pour le droit des victimes. Et je voudrais leur apporter quand même tout mon soutien, parce que d'abord, ils ont perdu des collègues aujourd'hui, et que c'est tout à fait notre rôle, et c'est le mien en tant que porte-parole nationale, de le dire, mais aussi de rassurer les gens, de rassurer les victimes, qu'ils sont d'un professionnalisme absolu, d'une rigueur absolue, et que lorsqu'ils le peuvent, ils accompagnent et ils aident les victimes dans le cadre de leur mission, comme nous le faisons quotidiennement.
D'accord, je vous remercie. Oui,
merci.
Donc c'est la fin de cette émission sur les violences sexistes et sexuelles, et à bientôt sur BAC FM.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.